Bonsoir. Il est 18h, désolé d'interrompre vos conversations. Bonsoir à tous, bienvenue dans la salle du Conseil. Je précise qu'à l'issue de ce Conseil municipal, Charles Bietri, qui vient de fêter ses 80 ans il y a deux jours et qui a reçu dans cette même salle, qui a été décorée par Loïc Perron dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, invite l'ensemble des membres du Conseil municipal à boire une petite coupe de champagne à l'issue de ce Conseil municipal. Je remercie Charles. Et donc, je vous demanderai tous, si vous le souhaitez, évidemment, de rester pour prendre cette petite coupe de champagne à l'issue de ce conseil municipal. On va commencer par l'appel, comme d'habitude. Monsieur Pierre-Léon Luneau est présent. Monsieur Tom Laborde est présent aussi. Monsieur Yann Guimard. Il va arriver, d'accord. Je l'inscrirai quand il arrivera. Ce n'est pas lui. Madame Le Golvan. Monsieur Benjamin Leroux. Monsieur Benjamin Leroux, vous acceptez d'être secrétaire de séance? Vous êtes le plus jeune. Non, c'est Benjamin le plus jeune. Non, c'est Benjamin ou c'est Tom? C'est Tom? Bon, ça ne te dérange pas si c'est Benjamin cette fois-ci? Ok, parfait. Donc c'est Benjamin, secrétaire de séance. Madame Justine Vienne, elle devrait arriver. Monsieur Philippe Le Guenec a donné un pouvoir à Monsieur Jean-Luc Servet. Madame Morgane Petit a donné pouvoir à Monsieur Olivier Lepic. Madame Katia Sculot est excusée. Madame Nadine Roué a donné un pouvoir à Monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Nicole Le Gagneux a donné un pouvoir à Madame Sylvie Robineau. Monsieur Christophe Richard. Oui, c'est ça qu'on te demande. Madame Juliette Cordès. Parfait. Monsieur Jean-Luc Servet. Monsieur Olivier Buquin. Monsieur Jean-Paul Kergosien. Madame Christine Desjardins, Monsieur Charles Bietri, Madame Christine Lamandé, Monsieur Gérard Marc-Albert, Madame Catherine Isoa, Monsieur Michel Durand, pardon, Madame Marie-Pierre Gasser, Monsieur Loïc Coudois. Alors Monsieur Loïc Coudois est d'astreinte aux pompiers et donc après 19h, il est susceptible de nous quitter et donc il a un pouvoir au nom de Monsieur Christophe Richard. Madame Sylvie Robineau, Monsieur Pascal Lejean et Monsieur Olivier Lepic. Nous avons donc le quorum pour délibérer et Benjamin Leroux est secrétaire de séance. On passe immédiatement à l'approbation du procès-verbal de la séance du 28 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Luneau?
Je vous remercie. Je ne vais pas approuver ce procès-verbal. Il y a des coquilles dans les noms propres que je trouve dommage. Monsieur Philippe Bélaval, le conseiller du président de la République, le conseiller culture, ancien président du Centre des Monuments Nationaux, est appelé Monsieur Delaval quand vous le citez comme votre ami. Ce que je trouve dommage, d'écorcher les noms propres, qui plus est des noms de famille. Vous aviez évoqué Madame Raymond, que je connaissais sous le nom de Madame Mercier, qui devient votre collaboratrice dans nos échanges, et je trouve vraiment dommage que les noms propres cités en responsabilité ne soient pas retranscrits dans les procès-verbaux.
Parfait, on va corriger. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Donc, à part Monsieur Luneau qui vote contre, très bien. Le compte rendu est accepté. Voilà, alors Monsieur Guimard vient d'arriver. Pour les noms propres, c'est embêtant aussi, mais Monsieur Luneau, ça peut arriver à tout le monde. Hein, vous savez, on va corriger, et ça ne remet pas en cause l'essence de ce qui est dans ce compte rendu. Mais bon, vous aviez bien tout parfaitement le droit de voter contre. Monsieur Guimard vient d'arriver. Bonjour Yann. Nous passons ensuite au compte rendu des décisions du maire, numéroté de 115 à 149. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Le Golvan.
Donc pour la 2023-120, mission de maîtrise d'œuvre pour la construction du musée de préhistoire Projotil, montant provisoire 2 459 210 euros. Donc ce montant fait-il partie de la construction, puisqu'on le voit tout à l'heure?
Oui, tout à fait, ça fait partie du budget global.
Donc dans les 20 millions, il y a ces 2 millions.
Tout à fait.
Donc c'est à peu près, combien c'est 12%, c'est...
Ça fait partie de la PCP qui a été votée.
Oui, d'accord. Donc, ça fait partie des 20 millions de construction. Je sais pas où vous en allez. Je continue. La 2023-121, donc mise à disposition de 2 logements par la résidence autonomie Anne Rosic pour loger les renforts saisonniers. Donc, c'est vrai que déjà, combien de logements sont vacants? Résidence autonomie, foyer logement, en fait, anciennement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre.
Madame Gasser peut vous répondre, je pense.
Si c'est à aujourd'hui, c'est 6 logements.
Donc, et combien de logements sont pris aussi par justement des gens qui ont besoin temporairement, enfin des plus jeunes qui...
Alors, il y en a 6 qui sont attribués à ce qu'on appelle nous les hors département.
D'accord. Donc, sans, voilà. Sinon, il y aurait 12 logements vacants.
Absolument.
Quoi. D'accord. Est-ce que vous avez comment justement fait un petit, comment dirais-je, un petit référentiel pour savoir qui peut en disposer de ces logements? Est-ce qu'on peut, quand on entend quelqu'un qui se trouve sans logement, mais il faut qu'il soit seul, et, voilà, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce qu'elles sont écrites déjà?
Alors, des critères, vous voulez dire, madame Le Blanc, des critères d'attribution.
Oui, des critères d'attribution. Au début, si vous voulez, ça a été un essai qui a été octroyé par... par le département, hein, parce que nous n'avions pas pour vocation d'avoir des personnes hors les personnes habituellement logées dans une résidence autonomie. Donc c'était un petit peu confidentiel, parce qu'il n'était pas question d'avoir des personnes soit en saisonnier. Il y avait un certain nombre de critères. excusez-moi. Et ce sont des gens qui travaillent sur la commune. Il faut qu'il y ait un travail. Il faut que c'est un contrat qui est sur 6 mois renouvelable une fois. Après ça, on n'en a pas fait la publicité parce que le nombre est tel de demandes, parce que quand on l'a fait, c'était à partir du mois de juillet, qu'on aurait eu une demande énorme de saisonniers qui n'était pas le but. Parce qu'effectivement, il faut des gens qui aient un certain nombre de critères. J'allais dire, on peut pas faire de bruit, on peut pas recevoir plein de copains. Donc voilà. Après ça, c'est pas du tout confidentiel. C'est géré par le service logement du CCAS. On reçoit les personnes et on voit si effectivement c'est compatible. Mais les critères, c'est effectivement de travailler, d'habiter sur la commune, limite les communes limitrophes, mais sans plus.
Mais c'est quand même élargi au-delà des logements d'urgence comme les autres logements dont on dispose.
Ah, ça n'est pas du logement d'urgence. Okay. Hein. Ça n'est pas du logement d'urgence.
Très bien, merci.
Vous avez...
Oui, j'arrive.
Yann.
Juste sur la 137. Alors déjà, la phrase est assez dure à lire. Et en dehors de ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a une grosse partie en fait, des décisions qui seront prises qu'on ne verra plus par rapport au montant qui est indiqué, enfin au pourcentage?
Alors, c'est juste pour donc, la M57. Hein. Donc, suite à la mise en place de la M57, je rappelle que la commune de Carnac a été une commune test pour la M57, puisque ça fait déjà un exercice de dire, l'exercice dernier en étant en M57. Les décisions modificatives seront obligatoirement que pour les virements de chapitre à chapitre, au-delà du seuil autorisé de la fongibilité asymétrique, qui est de 7,5% des dépenses réelles de la section. Alors, c'est vrai que j'avoue que... Hein ? Pas simple. Alors, l'avantage de la M57, c'est qu'elle a simplifié un petit peu la compta publique et qui nous permet de faire effectivement des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5%.
Oui, donc, dans si les heures. Le chapitre, il est à 10 millions.
Oui, effectivement. Alors, comme vous allez voir, on a des décisions modificatives qui vont intervenir dans ce conseil municipal. Souvent, on a ce qu'on appelle des opérations d'ordre. Que effectivement la trésorerie nous demande de changer de chapitre. Voilà, alors j'irai chercher un peu plus loin l'exactitude du terme. Je te le donnerai en off exactement ce que ça veut dire. J'irai demander au trésorier derrière. Mais c'est vrai que la phrase, elle est effectivement très technique et c'est à la demande de la trésorerie.
Je me permets juste une petite remarque. Du coup, ça va quand même être assez pratique pour vous.
Alors, effectivement, ça simplifie. La M57 simplifie, effectivement, la compta publique. Grosso modo, petit à petit, on est en train de se rapprocher d'une compta, entre guillemets, dite privée ou dite classique, plutôt. Je vais peut-être utiliser ce terme-là, avec des amortissements. Donc, on a fait un inventaire de tout ce qui était les biens sur la commune aussi, qui a été demandé, qui n'existait pas avant. Avant, je vous rappelais, on faisait un investissement. C'était ce qu'on appelait, souvent, Olivier utilise ce terme-là, one shot, et ainsi de suite. On n'en parlait pas. S'il n'y avait pas d'emprunt derrière, s'il n'y avait rien, on n'en parlait plus. Petit à petit, aujourd'hui, on va arriver dans des amortissements, y compris à terme, sur même des bâtiments derrière, et on aura un meilleur suivi de la compta. Pourquoi ? La comptabilité publique, au départ, c'est une gestion de trésorerie. Ok, c'est pas une compta comme on peut voir dans une entreprise, comme tu peux connaître. Hein. C'est une gestion de trésorerie pure, simplement. L'État considère que vous avez des recettes, vous avez des dépenses, ça doit s'équilibrer. Les recettes sont virées un par un, 12e de mois tout au long de l'année. Donc, on gère une trésorerie. Or, maintenant, on s'aperçoit qu'on se rapproche de plus en plus d'une compta dite classique, avec des amortissements, avec des investissements qui sont lourds, et surtout que les communes arrivent de plus en plus à avoir des produits qui sortent hors de la fiscalité dite directe. Hein, je parle de DGF et la taxe foncière et taxe d'habitation, d'avoir des ressources autres, on le voit sur Carnac, hein, droit de mutation, taxe de séjour, la taxe de jeu, et ainsi de suite, ou tout simplement la mise à disposition du domaine public communal. C'est pour ça qu'on a une modification et on continuera, vous verrez que la M57 va continuer à évoluer, et on aura d'autres termes au fur et à mesure, tous en se rapprochant. Et effectivement, ça permet aussi de simplifier dans des chapitres, de pouvoir passer de chapitre à chapitre, alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Systématiquement, on était obligé de passer en conseil municipal.
Donc, ces décisions modificatives, on les votera plus en conseil municipal
on en votera toujours. On en votera. Il y aura certaines...
Si elles sont supérieures.
C'est pas une question d'être supérieure, c'est une question de... Une décision modificative, c'est qu'on modifie le budget. Quand on a défini, par exemple, en début d'année, sur un BP, 10 millions de recettes pour 10 millions de dépenses, hein, je fais... Voilà, très court, hein, en fonctionnement. On sait très bien que les 10 millions de recettes, et on échange assez souvent lors du BP, sur le genre, vous êtes un peu frileux, ou ainsi de suite, hein, voilà, bah, c'est normal, on prévoit. Donc on a des recettes, entre guillemets, supplémentaires qui arrivent. On a aussi, des fois, des dépenses supplémentaires qui arrivent, et ce qui permet de faire une décision modificative du budget. Le but, c'est qu'il soit toujours à l'équilibre.
Mais on ne devra plus, en fait, finalement, même dans les décisions du maire, elles ne seront pas obligatoires, en tout cas, d'être reportées.
On ne verra plus autant de décisions modificatives qu'on avait dans le temps, systématiquement. Hein, même si la comptabilité, on a quand même été habitué sur la commune de Carnac à avoir peu de décisions modificatives. Je sais que des fois, on me le reproche un petit peu, hein, de vouloir un peu verrouiller, peut-être un peu trop. Voilà, bon, c'est chacun son... J'estime qu'on fait un prévisionnel, on doit être le plus possible dans les clous. Ça n'empêche qu'on a quand même des décisions modificatives, souvent à la demande de la trésorerie, ou des fois, là, on va en voir une, aujourd'hui, c'est la numéro 1, d'ailleurs, de l'année. Si vous allez dans d'autres communes, vous verrez des décisions modificatives, vous en avez systématiquement à chaque conseil municipal.
D'autres questions ? Monsieur Luneau ?
Non, bah vas-y, j'ai après.
Allez-y, non, mais on va... Bon. Comme vous voulez. Monsieur Luneau.
Merci. La 2023-136 du 28 septembre 2023, la défense des intérêts de la commune, requête en annulation engagée par l'association Sites et Monuments et l'association Coune-Braise, / commune de Carnac, contre la décision du maire refusant de retirer le permis de construire accordé à la SCI des Menhirs et à la SAS Bricodolmen, sous le numéro 056034, pour la construction d'un magasin de bricolage, autoriser des stés en justice et devis honoraires au cabinet Coudray d'un montant de 3 049 € TTC. C'est un litige qui est en cours ou qui est... On n'a pas d'informations sur la...
Ah ben, il est en cours.
D'accord. Mmh. Donc, ces associations sont venues vers la mairie pour demander de retirer le permis de construire.
Oui, tout à fait.
La mairie a refusé.
Tout à fait.
Et elles vous ont assigné en justice.
Tout à fait.
D'accord. Et on peut savoir pourquoi vous avez refusé de retirer le permis de construire.
Ben, il faut une raison pour refuser un permis de construire. Il est légal, je ne peux pas le refuser. Sinon, c'est le récipiendaire qui va se retourner contre moi. Ouais. Encore une fois, un permis, ça s'instruit en droit, monsieur Luneau. C'est pas au fil de l'heure et de l'air du temps. Donc, à partir du moment où le permis est légal, j'ai expliqué à ces associations que je ne pouvais pas retirer ce permis.
Et leurs arguments étaient
Le tribunal administratif en jugera.
Mais vous avez pris l'initiative de... Vous auriez pu vous... il y avait une conciliation qui était possible. Ils avaient des arguments.
Oui, mais qui étaient fallacieux.
D'accord. On peut pas les connaître.
Non, c'est une décision. Enfin, c'est en cours, c'est en justice, c'est le tribunal administratif qui décidera. Madame Le Golvin, vous avez une autre.
En fait, ce que vient de dire Pierre-Léon Luneau, enfin, votre réponse, moi, ça m'amène à penser. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas stoppé le chantier ? Parce que, ok, annuler le permis, bon, vous le dites. Mais et stopper un chantier comme celui-là, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas stoppé le chantier ?
Stopper un chantier, il faut une raison légale. Il n'y a pas de raison légale. C'est ça le problème. C'est que je n'ai pas, enfin je ne peux pas, enfin je, le maire est tenu de respecter la loi, Madame Le Goëlvan. Pour stopper un chantier, il faut que j'ai une raison légale de le faire. Là, il n'y avait aucune raison légale.
D'accord, mais et quand il y a des gros doutes comme ça, non, enfin, je ne sais pas, moi, c'est...
Je sais pas si bah, en fait, aurait... le doute porte sur l'existence ou non d'un site archéologique.
Ouais.
Il reviendra jamais, le site archéologique, si tant est qu'il ait jamais existé, parce qu'en droit, il n'existait pas. Donc, stopper le chantier, ça n'aurait rien changé à l'éventuel dysfonctionnement qui a présidé à cette destruction. Ça n'aurait rien changé à la situation actuelle. Donc, encore une fois, il y a... deux plaintes qui ont été déposées dans le procureur de la République de Lorient. Il y a des associations qui ont demandé le retrait du permis. À partir du moment où j'ai pas de base légale pour... Encore une fois, hein, je répète ce que j'ai bien dit. Ce permis, en droit, il est parfaitement valable. Et on instruit en droit, pas en opportunité. Donc aujourd'hui, je n'avais aucune raison ou même aucune possibilité légale d'arrêter le chantier.
C'est vrai que ça peut paraître grave, parce que ça crée un précédent. Si toutefois ça devait se renouveler chez un particulier ou autre, on fait quoi? Donc on continue, en fait.
Non, Madame Le Goëlvan, c'est déjà arrivé sous le mandat de Monsieur Bruno. Vous vous souvenez, oui, il y avait eu une affaire assez similaire. Oui. On a une densité archéologique sur le territoire qui fait que ce genre de choses peut se produire. D'ailleurs, suite à cet incident, on a identifié plus d'une soixantaine de sites archéologiques sur le périmètre UNESCO qui ne faisaient pas l'objet de protection réglementaire et qui étaient sur des zones constructibles. Donc on a, j'allais dire, bouché les trous dans la raquette. Mais aucun maire, aucun adjoint à l'urbanisme sur le territoire peut vous dire que ce genre de choses ne peut pas se reproduire. Et le penser, c'est peut-être, et le dire, c'est une chose. Mais quand vous êtes aux manettes, vous savez très bien que la complexité fait que parfois, eh bien, ça peut arriver. C'est bien dommage que ce soit arrivé, encore une fois. Mais en droit, et je le répète, hein, mais encore une fois, je ne m'exprimerai plus sur cette question parce qu'il y a deux plaintes qui ont été déposées. En droit, ce permis est parfaitement légal et les services de la mairie de Carnac ont fait leur travail de manière extrêmement rigoureuse. D'ailleurs, le préfet l'a signalé, la DRAC l'a signalé. Maintenant, laissons à la justice décider ou identifier, savoir où étaient ces dysfonctionnements.
Okay. Alors,
Madame Le Goëlvan ?
Oui. Je continue.
J'ai lu dans la presse qu'il y avait une troisième plainte qui avait été déposée et j'ai entendu dire qu'il y en aurait une quatrième. Êtes-vous au courant ?
Non, je ne suis pas au courant.
La troisième dans la presse, c'est certain. C'est, si je dis vrai, c'est l'UMIVEM. Et la quatrième...
Il y a deux plaintes au procureur de la République. Il y a celle-là. Voilà, pour moi, j'en ai D'accord. trois pour l'instant.
D'accord, donc il y en a trois pour vous. Et la quatrième, vous n'en avez pas eu écho ?
Je ne sais pas. Je vais regarder, je reviendrai vers vous.
Merci.
Oui, la 2023-131, donc convention de mise à disposition du terrain des cirques à MB, membre d'un groupe familial d'une communauté itinérante française, CIF, pour 15 jours du 5 au 19 septembre 2023. Ça concerne aussi justement tout ce qui se passe, c'est récurrent, tous les ans on voit qu'on a donc des...
Des gens du voyage, vous voulez dire ?
Non, ce n'est pas forcément des gens du voyage.
Là, c'est des gens du voyage.
Là, c'est des gens du
voyage. Oui, c'est des gens du voyage.
D'accord. Et
citoyen français itinérant. Oui.
Voilà. Et justement, pour toutes ces caravanes que l'on voit chaque année revenir, parce que voilà, ils font un tour, évidemment, de France.
C'est leur mode de vie, surtout. Hein.
Oui. Est-ce que, justement, des conventions, est-ce que vous vous préparez aussi ? Parce que là, ça fait 2 années de suite.
Alors, quand c'est négocié, quand ils préviennent de leur arrivée, oui, en général, on négocie des conventions pour qu'ils puissent au moins payer l'eau et l'électricité. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, ils ne s'annoncent pas et ils débarquent en force un dimanche sans qu'on puisse les empêcher de rentrer. Donc à ce moment-là, c'est très compliqué. Et puis quand ils arrivent sans prévenir, si on vote a posteriori une convention, ça veut dire qu'on accepte ce type de comportement. Et nous, on ne veut pas les accepter, parce que quand vous avez 400 caravanes qui arrivent un dimanche matin et que vous avez deux malheureux policiers municipaux qui essayent de s'opposer et qu'ils commencent déjà à rentrer dans le champ... Enfin, je ne sais pas si vous avez été amenée à gérer ça, Madame Le Goëlvan, quand vous étiez adjointe, mais c'est impossible de les empêcher, quoi. Donc c'est des comportements qui sont inacceptables. Mais malheureusement, comme disait le préfet, dans le sud, il fait trop chaud. Et donc maintenant, les communautés des gens du voyage trouvent qu'en Bretagne, l'été, c'est très agréable. Et donc on a une multiplication de ce genre de choses. Et je vous avoue que moi, mes dimanches du mois de juin, ils sont un peu stressants, parce que je sais très bien qu'entre 15h et 16h, Michel Courtel peut m'appeler en me disant Il y a 500 caravanes au purgatoire. Alors des fois, le service de la préfecture nous préviennent, donnent quelques indices, mais ils sont sur la voie express. Ils arrivent en général du 44 où ils sont restés dans une commune, 15 jours, 3 semaines. Le préfet nous dit, voilà, il y a un groupe de 500 caravanes qui part dimanche. Et ils sortent à Locmaricaire, ou ils sortent à Carnac, ou ils sortent à Hennebon. Et malheureusement, on se trouve complètement démunis, parce qu'il y en a beaucoup de ces communautés, hein, sur le Morbihan en l'été, notamment à cette période. Et puis, les arrêts, ils sont très bien organisés, ils ont des avocats, ils font quasiment tout le temps sauter les arrêtés d'expulsion. Et le préfet n'a pas les effectifs de gendarmerie ni même de CRS pour les faire partir. Donc c'est toujours une négociation très compliquée. On peut demander à Gérard. Voilà, on passe des heures et des heures à palabrer. La seule chose qu'on peut faire, c'est de négocier une date de départ. S'il la respecte. Là, il se branche à l'électricité. Bah, vous avez vu faire. Hein, ils arrivent. Hein, moi, je suis ébobi quand je les vois. Même les gens d'EDF nous disent, mais moi je ferais pas ça, j'aurais peur de me faire électrocuter. Ils arrivent, ils ont un camion avec des kilomètres de câbles, ils se branchent à l'eau, on coupe l'eau, ils se rebranchent. Enfin, c'est des communautés qui ont choisi de vivre dans une zone de non-droit, mais dans laquelle nous, élus, on est complètement démunis. Donc quand vous voyez une convention passer, c'est que c'est des gens sérieux qui appellent, qui nous demandent. Moi, j'ai rien contre les gens du voyage. Hein. Malheureusement, il y a 20% qui ruinent la réputation de 80% d'une population qui se comporte plutôt bien. Et quand ils sont sérieux, quand ils respectent, moi, je suis pas contre les accueillir à Carnac. Mais quand vous voyez une décision du maire, ça veut dire que c'est des gens qui nous ont prévenus, qui nous ont demandé et avec qui on a négocié, accepté leur présence.
Donc ceux qui sont au terrain des sports, c'est pareil, il y a une convention tout spécifique
à fait.
Avec eux.
Tout à fait.
Alors là, c'est des commerçants non sédentaires. Hein,
Excusez-moi, ce sont des commerçants non sédentaires qui sont récurrents. Hein, ils sont là quand même depuis beaucoup de décennies derrière. Donc ils viennent tous les ans. Ils sont sur le marché, soit à Carnac ou sur d'autres marchés. Ils font des manifestations dans des campings, ainsi de suite. C'est toujours les mêmes qu'on a tous les ans. Et là, on a une règle avec eux où on essaye à peu près de cadrer les mêmes familles. Alors, de temps en temps, il y en a d'autres qui viennent se rajouter. Gérard gère plus ou moins comme il peut avec Michel Courtel. Mais ceux qui sont là, on essaye un petit peu de les cadrer. Et en général, on n'a pas trop de problèmes avec eux. Autrement, c'est la double punition. Virer de là-bas et virer du marché.
Ah oui, d'accord.
Oui, c'était la règle du jeu que j'avais mis dès le départ. Et, si ça va trop loin, c'est la double punition.
D'autres questions sur les décisions, Tom ?
Donc là, sur la 2023-131, il s'agit bien d'une convention qui a été signée avant l'arrivée, puisque quand on regarde la date, la date des décisions du maire correspond peut-être pas.
Pas avant l'arrivée, puisque c'est impossible de leur faire signer avant l'arrivée, il faut qu'ils soient là physiquement. Donc en général, on fait signer une fois qu'ils sont arrivés, ou même le jour du départ, parfois ça arrive, hein, quand on a un accord. En général, enfin, voilà, quand on les connaît, il y en a qui sont très sérieux et qui font ça.
Merci.
On gère au jour le jour.
Pardon, mais ça m'amène à une autre... On va passer rapidement après, mais comme le problème va se reposer l'an prochain, est-ce que vous prévoyez un terrain pour qu'il puisse s'installer ?
Alors, on y réfléchit. Effectivement, l'idéal, ce serait de trouver un terrain dans la campagne, si possible. Évidemment, loin de tout, parce que c'est pas simple. Et là où il s'installe, en plus, c'est souvent en zone ostréicole. Enfin, voilà, il y a des problèmes d'assainissement parce qu'il faut quand même l'eau courante, il faut l'électricité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de prévenir dans les endroits dans lesquels on sait qu'ils aiment s'installer. Ben, on essaye de barricader pour le pas qu'ils rentrent de force. Hein, mais c'est compliqué parce qu'un champ, c'est compliqué de le barricader complètement. On avait barricadé un petit peu la zone à côté de la Croix des Immigrés. Ils sont allés plus loin cette année. Ils sont allés à la pointe du Gourec chez un particulier. Mais voilà, on ne peut pas bunkériser tous les champs de Carnac. Mais oui, on y réfléchit. Alors ACTA aussi a un plan gens du voyage. Hein, donc... qui n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais qui est en progrès. Et donc, normalement, dans les semaines et mois qui viennent, il devrait y avoir des aires. En tout cas, on respectera légalement le plan imposé par la préfecture. Ceci dit, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez une aire qu'ils vont dans ces aires-là. Parce qu'en fait, comme cette année, ils refusent d'aller dans les aires officielles. Ils préfèrent aller... au bord de la mer à Carnac. Enfin, je veux dire, c'est bien normal. Donc, c'est bien normal. On peut les comprendre. Ceci dit, voilà, nous, on a. Ouais, j'ai pas de char d'assaut, moi. Et puis, il s'agit pas de. Voilà, c'est dommage que. C'est encore une fois, ils sont pas les malvenus sur la commune. C'est juste dommage d'avoir partie de la communauté qui arrive et qui rentre en force dans des terrains privés ou communaux et qui s'installe et qui vous met devant le fait accompli. Et là, une fois qu'ils sont là, je vous mets au défi de les virer parce que c'est pas possible.
Qui est prévu à Breck, donc on aura celle de Plunérette au niveau d'Acta et celle de Breck, une de 4 et une autre de 2 hectares. Le problème qui risque d'arriver, si ça leur convient pas, ils vous trouveront 1000 façons de dire que ça leur convient pas et qui viendront sur la commune, donc Marie-Équerre, ou un peu plus près du bord de mer, comme ils le font ces dernières années.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les... Madame Le Golvan, micro, Madame Le Golvan, s'il vous plaît. Ouais.
Les décisions du maire, il y a 3 décisions donc sur justement la création la construction du musée en tout cas. Donc ça, on voit que ça avance vite. Les travaux de destruction justement de la cantine, de l'ancienne cantine, c'est prévu quand est-ce que ça démarre réellement?
On a le temps. Monsieur Servet, je pense, va pouvoir vous répondre précisément, mais c'est pas tout de suite.
Hein. Ouais, c'est pas tout de suite. De toute façon, il y a toute une année devant nous de préparation, de consultation, etc. Donc de toute façon, ce serait pas avant grosso modo un an.
Et juste une dernière question, je ne sais pas si c'est pour Madame Robineau ou Madame Gasser. Donc on avait changé de prestataire de service au niveau de tout ce qui était restauration pour les cantines et la résidence autonomie. Alors les retours, puisque là, pareil, il y a une décision du maire pour renouveler le marché public à 344 000 euros. Donc qu'en est-il
au niveau qualité, vous voulez dire? Écoutez, on a de très bons retours au niveau qualité. On n'a pas de soucis. Ouais, oui. C'est 3 ans.
Parfait. On passe au point suivant de l'ordre du jour, donc l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit donc d'adopter la charte d'engagement commun et le plan de gestion du bien sur le périmètre et sa zone tampon. Je reviendrai pas sur le calendrier, sur le processus qui a conduit à ce vote. Le 10 octobre dernier, s'est donc tenu devant le Comité des biens français au ministère de la Culture la dernière audition de ce dossier. On devrait, dans les jours qui viennent, obtenir la réponse et la proposition de ce comité à Madame la ministre de la Culture, qui devrait, si tout se passe bien, accepter définitivement le dossier des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, et, si tout se passe bien encore une fois, le déposer officiellement à l'UNESCO au cours du premier trimestre 2024. Avec donc une année 2024 qui sera essentiellement consacrée à l'étude du dossier par les experts de l'ICOMOS et de l'UNESCO, avec une visite probablement des experts au troisième trimestre à Carnac, pour, si encore une fois les experts de l'ICOMOS rendaient un avis favorable à la fin de l'année 2024, une présentation lors de la session 2025 de l'UNESCO, dont nous ne savons pas encore où elle se tiendra, peut-être en Inde ou en Amérique du Sud, et si là aussi tout se passait bien, eh bien pour une inscription définitive lors de cette session à l'été 2025. Nous sommes la dernière collectivité à voter cette charge d'engagement et ce périmètre. Hein. Je vous rappelle que la région l'a déjà ratifié, le département l'a ratifié. Les 2 intercommunalités l'ont également ratifié et l'ensemble des 26 communes, nous sommes donc la 27e, l'ont également ratifié au cours des dernières semaines. Et cette charte et ce périmètre sera l'objet d'une signature officielle qui se déroulera demain au Conseil départemental en présence de l'ensemble des acteurs, y compris le président de région. Et cette opération de communication est destinée à montrer, je dirais, l'unité du territoire et de ses acteurs dans le cadre de ce dossier qui est un dossier au long cours. Hein, vous le savez, ça fait presque des dizaines d'années que ce dossier est sur la table, et enfin il arrive à son échéance, et évidemment je m'en félicite. Ça a été un travail absolument gigantesque, d'abord de la part du comité scientifique, hein, et je ne peux pas ce soir ne pas avoir une pensée pour le professeur Coppens et l'ensemble des scientifiques et des archéologues qui ont travaillé au sein de ce comité scientifique. Et puis, depuis quelques mois, au sein de l'association Paysages de Mégalithes, eh bien, un énorme travail également sur le plan de gestion, dont on constate voilà qu'il est un ouvrage à remettre systématiquement sur l'établi, parce que ce plan de gestion c'est évidemment destiné à mettre en valeur et à protéger l'ensemble de ces sites, et nous l'avons vu avec l'actualité au printemps, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça que l'affaire de Montauban a permis de renforcer encore la protection. On l'avait déjà renforcée avant avec le classement d'une plus de 60 sites mégalithiques en monuments historiques, hein, au cours des 24 derniers mois. Et ce plan de gestion, il est évidemment très très important, parce que c'est un des aspects qui sera le regardé avec le plus d'attention de la part des experts de l'ICOMOS et de l'UNESCO. Et donc ce point final aujourd'hui sera probablement le dernier vote du Conseil sur le sujet. C'est le fruit voilà de plusieurs dizaines d'années de travail. Et donc, enfin, la reconnaissance de ce patrimoine absolument extraordinaire qu'il faut évidemment non seulement protéger, mais mettre en valeur. Le plan de gestion, c'est aussi la gestion des flux, c'est aussi l'expérience visiteur, c'est aussi la préservation, évidemment. Et il est important que nous puissions le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Le classement nous permettra d'avoir accès à des fonds supplémentaires. Il y a un certain nombre de sites aujourd'hui, et je ne parle pas tellement des sites de Carnac, hein, qui sont un peu comme ceux de Locmariaker, d'Arzon ou d'Erdeven, les sites les plus importants, mais il y a plein de sites qui méritent d'être aménagés et surtout expliqués. Il y a un gros travail aussi dans le plan de gestion sur la signalétique, et donc ce travail, je voudrais remercier aussi toutes les équipes de Paysages de Mégalithes, hein, j'ai vraiment une équipe formidable au sein de Paysages de Mégalithes, qui a travaillé vraiment d'arrache-pied depuis quelques mois pour terminer ce dossier qui, vous le verrez, parce que je pense que lors du prochain conseil municipal, je vous le montrerai physiquement, parce qu'on a voulu en faire un très bel objet. Donc c'est une belle boîte en carton avec plusieurs milliers de pages. Hein, un dossier UNESCO aujourd'hui, c'est vraiment un travail énorme. Et c'est évidemment beaucoup d'émotion, parce que ça n'a pas été un dossier simple, vous le savez, hein. Sans remonter jusqu'à l'épisode de bombe qu'on a connu il y a quelques dizaines d'années à Carnac sur le dossier. Mais c'est quelque chose d'important et assez symbolique d'ailleurs que Carnac soit la dernière collectivité à voter ce plan de gestion et cette charte d'engagement qui a été, je vous le rappelle, votée voilà, à l'unanimité de l'ensemble des membres qui sont partie prenante dans ce dossier UNESCO. Voilà pour ce que j'avais à dire. J'imagine qu'il y a des questions sur le...
Je vous remercie. Je vais voter contre ce plan de gestion parce qu'il y a beaucoup de réserves à émettre sur celui-ci. J'ai sous les yeux un courrier d'un des membres du comité scientifique, démissionnaire, un courrier qu'il a écrit à la ministre de la Culture. Dénonçant le manque d'écoute du comité scientifique, demandant le report d'au moins un an pour faire un vrai travail de prévention, de préservation, et que le plan de gestion ne soit pas axé uniquement sur le surtourisme. J'ai discuté à Paris, au Salon du patrimoine, avec un des experts de l'ICOMOS qui est très nuancé sur justement la... On va dire le bien fondé de la démarche, et qui voit beaucoup de, qui voit pas assez de, on va dire de mesures de prévention et de préservation. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec la ministre de la Culture au Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre le week-end dernier, à l'aide d'un menhir en chocolat avec une banderole marquée à nos menhirs. Nous avons rencontré la ministre de la Culture qui nous a répondu que les menhirs détruits à Carnac n'étaient pas des menhirs, puisque Éric Zemmour disait que ce n'était pas des menhirs. Véridique. Donc tant mieux pour vous si la ministre suit ces démarches. Stéphane Bern a été beaucoup plus à l'écoute, a compris les vrais enjeux. Donc ce plan de gestion, je vais vous faire quelques commentaires dessus.
Donc, dans la charte d'engagement, page 6, la question est pourquoi les travaux liés à l'élaboration du plan de gestion ont-ils débuté en 2020, alors que l'association Paysages de Mégalith œuvre depuis 2012 sur ce dossier? Et cette charte et ce plan sont soumis in extremis aux élus du secteur, alors que le dossier engage le territoire de façon irréversible dans la voie du surtourisme. Page 5, toujours sur la charte d'engagement, les périmètres s'appuient sur l'ensemble des études et inventaires menés et coordonnés par Paysages de Mégalith depuis 2012, validés par son comité scientifique et en Assemblée générale du 28 mai 2021. Le retrait de la zone jouxtant au sud, la zone artisanale de Montauban, a-t-il été bien validé par ces instances? Et en effet, on voit que la carte a grandement évolué depuis le printemps. Il y a une brèche absolument incroyable dont le tracé n'est même pas refermé. Est-ce que vous souhaitez répondre aux questions au fur et à mesure ou...
ouais.
La charte d'engagement, toujours en page 9, et le plan de gestion, page 236. Le plan de gestion prévoit pas moins de 6 instances décisionnaires et opérationnelles. Il fait l'effet d'une usine à gaz administrative, peu efficace. Il réitère d'ailleurs l'organisation actuelle qui a pourtant montré ses limites dernièrement avec l'affaire de la destruction des menhirs du chemin de Montauban au printemps 2023 ou encore le récent projet d'installation d'une antenne relais à 30 mètres d'un dolmen de la Trinité-sur-Mer, pourtant classé monument historique. Trop de gestionnaires, on le sait, diluent la responsabilité. Il serait nécessaire qu'un seul organisme coordonne et contrôle le tout. Pourquoi une instance unique qualifiée de type établissement public de coopération culturelle, comprenant des archéologues, n'a-t-elle pas été étudiée et élaborée pendant toutes ces années de réflexion? Elle était déjà annoncée en 2010 à l'issue du groupement d'intérêt public Mémoire de Pierre en Morbihan. La protection des éléments du bien est déjà établie, on en doute au regard de l'actualité. On s'étonne qu'aucun cadre emploi d'archéologue territorial assurant une veille au plus près des sites et développant la recherche sur ces monuments ne soit prévu. Cette mise à l'écart de cette profession interroge pour un patrimoine moins important des postes d'archéologues territoriaux, voire des services archéologiques sont créés dans les collectivités en France. Toujours sur la charte d'engagement, page 12, et sur le plan de gestion, page 277, les 6 enjeux ne sont que des déclarations d'intention. Aucune piste concrète n'est présentée, pas même dans les fiches actions du plan de gestion. Pourquoi? Par exemple, on se serait attendu à des propositions fixant des quotas journaliers d'accès aux mégalithes. Ces quotas seraient les garants d'une bonne préservation des sites et éviteraient une saturation de notre territoire en période estivale. Les fiches actions décrivent des axes généraux qui auraient dû être suivis dès le début du processus. Une série d'objectifs plus précis est indispensable. En conclusion, la charte d'engagement, comme le plan de gestion, ne garantissent en rien les enjeux affichés d'un tourisme durable, d'une amélioration de la qualité paysagère des sites, du développement de la recherche. Les compétences en archéologie nécessaires n'apparaissent nulle part dans l'usine à gaz administrative proposée. La seule stratégie évidente semble celle de garantir l'existence et le financement à long terme de Paysages de Mégalith. Le montant de financement de Paysages de Mégalith depuis 10 ans est estimé à peu près 5 millions d'euros. Et la question que j'ajoute, c'est pourquoi n'avoir employé aucun archéologue depuis 10 ans si cette association a comme vocation de protéger et de préserver le patrimoine?
Pourquoi vous dites des énormités pareilles? Il y a 2 archéologues au sein de Paysages de Mégalith, dont une doctorante. Pourquoi vous ne vérifiez pas les informations avant de balancer des choses comme ça, monsieur Luneau?
Votre archéologue s'appelle
Il s'appelle... Oui, il y a Estelle, non, je ne me souviens pas de leur prénom, mais en tout cas, il y a 2 archéologues, monsieur Luneau.
Mais vous ne connaissez pas leur nom?
Non, mais...
Mince. Oh, Olivier. Olivier.
Émilie Edbeau, voilà, c'est ça, c'est Émilie.
Qui est archéologue?
Qui est archéologue? Tout à fait.
Et qui a été embauchée en quelle année?
Elle est là depuis le début du projet, quasiment.
Depuis le début du projet, d'accord. Très bien.
Non, monsieur Luneau, vous balancez des choses avec une légèreté absolument incroyable. Enfin, dans le comité scientifique, monsieur Luneau, dans le comité scientifique, il y a plein d'archéologues.
Que vous
dans
n'écoutez pas.
Dans Paysages de Mégalith, il y a 2 archéologues. Non, il y en a un qui a démissionné. C'est le seul. Il était en désaccord. Je ne m'immisce pas dans les travaux du comité scientifique. Je ne me suis jamais immiscé dans les travaux du comité scientifique. Donc, il y a des archéologues à tous les étages dans ce projet. Donc, je vois pourquoi, je ne sais pas de quelle frustration vous voulez parler, mais il y a plein d'archéologues, donc vous ne devriez pas dire des choses comme ça. C'est les archéologues qui ont piloté les premières années de ce projet.
Vous les avez consultés pour la redéfinition du
bien
périmètre ?
Bien sûr. Bien sûr, on les a consultés.
Pour la brèche ouverte, là, la mystérieuse brèche.
Le comité scientifique se prononce sur des périmètres quand une commune sort ou entre, pas sur les variations de périmètres, parce qu'il y a eu des centaines de variations de périmètres depuis le début du projet.
Oui, mais le site archéologique du chemin de Montauban qui
figure dans la liste. Ils ont été informés et consultés.
D'accord, mais une fois qu'il est démoli, il sort de la zone, avant la démolition, il était dans la zone. C'est le comité scientifique qui vous a validé ça.
Monsieur Luneau, bien sûr que ça a été validé par le comité scientifique.
Le comité
Monsieur Luneau, contrairement à ce que vous essayez de faire de croire, je ne suis pas Deus ex machina dans ce projet. Il y a une gouvernance, il y a un comité scientifique qui est souverain et qui décide. Et il se réunit d'ailleurs avec son ordre du jour dans lequel je n'ai pas à intervenir. Et encore une fois, s'il avait voulu manifester une quelconque opposition ou si on lui avait tordu le bras, vous inquiétez pas, je pense qu'il se serait exprimé. Donc n'allez pas chercher encore une fois avec des insinuations des choses qui n'existent pas. Ok ?
Alors, je n'insinue rien. J'ai discuté avec des archéologues. L'archéologue démissionnaire qui a...
C'est qui cet archéologue démissionnaire ?
Pierre Corbou.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit ?
Il écrit à la ministre de la Culture en
disant... Oui, mais il était en désaccord avec le comité scientifique, mais il n'était pas en désaccord avec moi. Il était en désaccord avec le comité scientifique.
Oui, mais...
Donc adressez-vous à la présidente du comité scientifique, qui est archéologue, il me semble.
Vous le savez ?
Ah oui, Christine Bougeot.
D'accord. Bon. Vous n'écoutez pas donc ce comité scientifique ? Enfin, c'est ce membre qui vous dit que le plan de gestion...
Mais il a démissionné, monsieur Luneau. Oui. Il a démissionné. Ouais. Et deux ans après, il écrit à ses collègues. Je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. C'est encore une fois, c'est un membre du comité scientifique qui s'adresse au président du comité scientifique. Je n'ai pas à répondre.
Mais cette association est vraiment faite pour préserver et prendre soin du patrimoine.
Bon, allez, on va arrêter là, monsieur Luneau. Non, mais je veux dire, je veux bien répondre à toutes les questions, mais... quand ça devient oiseux, c'est pas la peine. OK ? Donc, je ne répondrai pas. Ça vous va ?
Non.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, Madame Le Gaulois ?
Alors, j'ai, avec mes collègues d'ailleurs, donc on a lu toutes les fiches techniques. C'est vrai qu'il y en a quand même 37. Mm-hmm. C'est vrai que certaines fois, c'est très large comme intention. Et parfois, c'est très, très précis ce qu'on peut... Ce qu'on peut voir, c'est chiffré, enfin bref, et précisément d'ailleurs. Par contre, c'est vrai que je trouve que ce plan de gestion n'exprime pas assez, en tout cas ne rentre pas dans le détail, sachant que Carnac, ça va être quand même le site le plus important de ce projet. Et on ne voit pas pour Carnac, par exemple, on sait très bien qu'il va y avoir des aménagements. Donc on nous parle d'aménagements, mais on ne nous dit pas précisément. Par exemple, on dit les sites, on va essayer de faire en sorte que les sites soient réunis. Alors c'est bien quand on dit ça, parce que sites réunis, on peut dire, c'est pour que Erdeven soit bien fléché, pour les touristes qui viennent ici, on peut penser ça. Mais on peut penser aussi que, par exemple, depuis longtemps, on parle du site du Ménec et du site du début du site de Kermario et de cette départementale donc, qui sectionne en fait ce site mégalithique. Là, par exemple, on peut tout lire, on ne trouve rien. Donc, quels sont les projets ? On parlait aussi, vous avez commencé des aménagements, par exemple, au niveau du Nignol. Il y a eu un moment de temps, et c'était même pour quand il y avait eu la préparation du PLU, avant que vous n'y soyez, ça avait été fléché qu'il y aurait une zone de détournement, c'est-à-dire que le rond-point servait, on passait par Carlane pour arriver à Carnac. Là, on ne voit strictement rien dans les aménagements futurs qui vont quand même être des contraintes, peut-être des améliorations pour certains Carnacois ou des contraintes pour les autres. Donc, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment très vaste. Par contre, là où c'est finement fait, c'est que c'est vrai que toutes ces fiches actions, donc les 37 qui sont là, il y a pour tout ce qui va se passer, donc c'est budgété. Donc là, monsieur Lejean, vous avez dû lire ça attentivement aussi, parce que les cordons de votre bourse vont devoir se lâcher un peu. Ah, c'est pas vous. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que dans toutes ces fiches, il y en a une surtout où c'est pas PDM qui va, comment dirais-je, s'en occuper financièrement, mais c'est la commune de Carnac. La création du musée, c'est pour ça qu'on votera contre aussi, puisqu'on a voté contre la construction du musée, parce que le prix est pharaonique et que je pense qu'il y a d'autres projets bien plus importants, en tout cas actuellement. Enfin, on avait voté contre en vous donnant nos arguments. Là, dans les fiches techniques, le musée apparaît comme une des on va dire, contraintes ou améliorations, parce que ça dépend où on se situe. Ça apparaît, donc, si c'est dedans, ça veut dire que c'est... On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que le plan de gestion prévoit que la création du musée ne peut que se faire. Ça, c'est une première chose. On sait qu'on engage quand même 20 millions et c'est que la commune de Carnac. Ensuite, il y a aussi, puisqu'on rayonne un petit peu... Subvention, pour moi, c'est le contribuable. La région, le département...
Vous venez de dire c'est que la commune de Carnac. Je vous dis non, c'est pas que la commune de Carnac.
Peut-être. Mais en tant que contribuable, moi, je participe et tous autour de cette table, on participe... à la commune, à ACTA, au département et à la région. Donc, ça dépend aussi, mais je suis contribuable comme vous tous. Et du coup, vous m'avez coupé un petit peu dans mon élan. Oui, c'est une précision, mais un contribuable reste un contribuable. En fait, quand on regarde le budget annuel, vous l'avez noté, et ça, c'est précisément mis aussi, écrit, c'est marqué, vous avez mis un budget, si on reçoit 60 000 visiteurs, donc le budget de fonctionnement, puisqu'on peut à peu près le calculer, à peu près, là c'est précis, c'est 1 245 000 euros de frais de fonctionnement. Ça va coûter à la commune. Ensuite, si vous avez fait une projet... Oui, mais c'est marqué frais de fonctionnement, là on les note. Alors justement, venons-en aux recettes qui viennent en face. Aujourd'hui, on a notre musée qui reçoit 40 000 personnes, d'accord ? On a un budget d'à peu près combien, monsieur Lejean ? Là, il a un peu augmenté parce qu'il y avait des choses, mais combien ? C'est 800 ? 800 000 euros, on est d'accord. Oui, complètement. Et on abonde tous les ans, parce que la culture n'a pas de prix, bien sûr, mais on abonde à combien ?
350 000. Cette année, ça va être 300, un peu moins, parce qu'on a un peu plus de visiteurs.
D'accord.
Non, pas 400. On n'a jamais été à ce niveau-là. Il y a juste une année, on a dépassé effectivement ce montant-là. C'était l'année Covid. Je veux justement que celle-là, on la mette de côté, parce qu'elle est arrivée plusieurs fois. Et j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. La commune, aujourd'hui, a participé. Et grosso modo, c'était une moyenne sur ces dernières années, 350 000 euros pour le musée de la préhistoire, que la participation de la commune de Carnac. Cette année, ça va être un petit peu moins. On a eu un peu plus de visiteurs. Quand on aura les chiffres exacts, voilà, je vous le dirai. Mais grosso modo, on est là. Un seul chiffre qui a dépassé ça, qui a approché les 500 000 euros, c'était au moment du Covid, puisqu'on n'a pas bénéficié, le musée n'a pas bénéficié des aides qu'a pu bénéficier d'autres organismes liés à la commune.
D'accord. Donc on peut penser que 40 000 visiteurs nous rapportent, on va dire, puisqu'on abonde 450 000 euros. Je fais simple, hein.
Alors, on espère, si vous voulez, dans la logique, plus simple. On va aller... Alors déjà, il y a...
Monsieur Servet, vous soupirez, mais on engage quand même la commune, on engage les Carnacois. C'est une salle de conseil municipal où on débat. Dès qu'on dit quelque chose, vous êtes tous en train de soupirer.
Non.
Vous avez tous lu ces fiches, vous avez regardé.
Ce que je veux juste dire, Mme Le Golvan, c'est que vous repartez d'éléments du musée actuel qui n'ont... aucune comparaison possible, ni en recettes, ni en dépenses, avec un musée de demain tel qu'il est prévu.
D'accord.
Donc je veux dire, c'est que vous pouvez faire toutes les hypothèses que vous voulez en interrogeant Pascal Lejean.
Vous n'avez pas lu vos fiches.
Non.
Vous n'avez pas lu vos fiches.
En interrogeant Pascal Lejean sur quelle est la subvention qu'on donne aujourd'hui et quel est le nombre de visiteurs.
On a 40 000 visiteurs aujourd'hui et la commune abonde à 350 000. Euros, d'accord ? Là, dans notre fiche numéro 2D, c'est écrit précisément. Vous avez fait deux projections. Une projection avec 60 000 visiteurs. Ça coûte en frais de fonctionnement prévisionnel 1 245 000 et sur base de 80 000, 1 455 000 euros. Donc, vous me dites que je ne peux pas comparer. Évidemment, c'est peut-être pas parce qu'un nouveau musée, il y aura des jeux, ce sera ludique, il y aura plus de visiteurs. Je l'entends. D'ailleurs, vous n'êtes pas parti sur 40 000, vous êtes parti sur 60 000. J'ose espérer qu'on recevra 60 000. 60 000 visiteurs, d'accord ? Même si, donc on en a 20 000 de plus. À 1 245 000, vous voyez bien que le budget, quand même, là, ça ne va pas être 350 000 euros que la commune va devoir subventionner. Ça va être beaucoup plus. Et si jamais vous voulez...
Vous avez des recettes,
madame, madame Le Gollon, je peux vous arrêter parce que si monsieur Servet a soufflé, c'est parce que, en fait, la subvention d'équilibre, c'est la différence entre le frais de fonctionnement et les recettes.
Oui.
Si vous faites augmenter les recettes et que les frais de fonctionnement, la subvention d'équilibre ne peut pas être plus élevée, elle peut même être moins élevée. Et c'est un petit peu ce qu'on a dans le business plan. Donc il ne faut pas extrapoler comme ça. La seule façon d'extrapoler, ce serait d'avoir le volet recettes que vous n'avez pas aujourd'hui.
Mais un volet recettes, j'ai calculé.
Donc l'engagement que j'ai pris, pour vous rassurer, c'est que la subvention d'équilibre de la commune ne bougera pas substantiellement dans le cadre de ce nouveau musée.
Non, ça ne tiendra pas la route, ce n'est pas possible. Parce qu'à 1 245 000...
Madame Le Gollon,
aujourd'hui, l'entrée du musée est à 10 euros.
Si je vous le dis, c'est que on a travaillé sur la question je vous donne rendez-vous dans quelques années, Madame Le Gollon, on verra bien.
Je sais pas si... Oui. En tout cas, En tout cas, même à 10 euros, et si on passe à 15 euros, vous ne pouvez pas... Enfin, ne pas subventionner et d'arriver à vos 350 000 euros.
Mais on continuera de subventionner notre musée, bien sûr.
Oui, mais à hauteur de 350 000, c'est ce que vous venez de dire. D'autre part, ce sera beaucoup plus.
Ça varie aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire 350 000 à l'euro près.
L'entrée d'un musée, ce sera à peu près le même prix qu'aujourd'hui. Vous ne pourrez pas mettre... Si on fait un calcul, il faudrait payer 30 euros la place pour pouvoir tenir la route. Même si vous mettez 15, vous n'y serez pas.
Le Gollon, de toute façon, on verra bien. Et moi, je vous dis, quand je vous donne rendez-vous dans quelques années, vous verrez bien qu'on a réfléchi à la question.
Ah, mais j'ose espérer. D'autre part, c'est vrai que pour ce projet, donc toujours d'un point de vue argent, j'ai vu qu'au niveau de Vannes, du coup, bah, pareil, dans ces fiches, on dit qu'il y a une fiche spécifique pour Carnac pour le musée et il y a une fiche spécifique pour Vannes où... On va racheter, donc, enfin, en tout cas, Vannes va faire des travaux pour 2 millions et quelques d'euros, plus on rachète je vais l'écorcher si je vous le dis comme ça, mais on rachète le polymatique, c'est ça. Donc là, pareil, 2,5 millions qui vont être injectés, payés par les contribuables, toujours, hein, évidemment, pour que la vitrine de du Morbihan soit totale. Donc Vannes, on va faire des travaux, ici, on en fait aussi. Donc ça, c'est une chose. Et quand on fait le calcul de toutes ces petites fiches, donc c'est pour ça que c'était assez intéressant, on voit finalement qu'en budget de fonctionnement, si on enlève en tout cas surtout nos 1 250 000, ça fait quand même à peu près, pour PDM, 600, enfin pour paysage des mégalithes, parce que c'est référencé, si c'est PDM qui sera voilà, le budget, on a à peu près 600 000 euros pour paysage des mégalithes. Donc le budget de paysage des mégalithes, alors là...
Il se maintienne à 600 000 euros, parce qu'une fois que l'inscription sera faite, il va complètement évoluer, ce
budget. Vos 37 fiches, c'est noté en bas.
Non, mais ça, c'est pour les... Non, mais c'est pas... Vous confondez le budget de fonctionnement et le budget action. Il y a une partie de ces actions qui seront menées par des communes, par le département, il y aura des subventions.
Je vous ai dit que c'était très précis. Par exemple, j'en prends une. C'est action poursuivie et renforcée chaque année. Chaque année, c'est chaque année. Quand ils disent... sinon, ils marquent budget jusqu'en 2027. Vous avez raison,
Madame Le Gollon,
je les ai enlevés, cela.
Ce sera financé... Non, mais le budget de paysage de mégalithes, il est financé par des contributeurs extérieurs. C'est-à-dire que le paysage de mégalithes n'a pas de ressources propres.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est le département qui donne une subvention, c'est les communes. Donc là, ce sera exactement le même fonctionnement. Alors, sauf à ce que vous étendiez le fait qu'effectivement, c'est l'ensemble des contribuables. OK, je l'entends.
Il se nourrit de l'argent des contribuables.
Je l'entends, c'est le département qui décide ce qui fait de sa fiscalité. C'est pas moi.
Complètement, mais on ne peut pas nier. Moi, ce que je regarde, c'est que PDM, chaque année, parce que j'ai enlevé, quand c'était des actions temporaires jusque 2027, je les ai enlevées, celles-là. Toutes celles qui sont pérennes, je les ai notées. 600 000 euros. Alors, vous avez beau me dire que c'est le département, que c'est ci, c'est ça, on part dans un projet qui est complètement, enfin, pour moi, par rapport aux enjeux, on parle d'enjeux. Et en plus, les fiches, les techniques sont marquées enjeux, mais il y a tellement d'enjeux pour une commune plus importante que celui-là. Je trouve, voilà les raisons, en plus de celles qu'on avait évoquées contre la construction du musée. Voilà ce qui me fait aujourd'hui, en tout cas, c'est dommage parce que l'UNESCO, la préservation des monuments, tel que c'est dit ou déclamé, c'est très très bien, ça on en convient. Maintenant, quand on voit aujourd'hui tous ces efforts qu'il faudra faire, et on ne sait même pas trop où on va, je pense que... Je ne pense pas. C'est bien sur le papier, mais... voilà. Je trouve qu'il faut être un petit peu mégalo pour tout ça. Hein ? Non, il faut être... voilà. Je n'y vais pas, en tout cas.
Bon, parfait. OK. Je vous propose de passer au vote sur ce dernier point. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Hein ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Donc, ce rapport numéro 4 est adopté à la majorité. Monsieur Lejean.
On va passer sur un sujet un petit peu plus simple.
Non, donc, c'est... Non. On passe.
J'avais la main en l'air pour une question. Pour que l'UNESCO éventuellement accède à votre proposition de classement, il y a notamment l'adhésion de la population. Comptez-vous faire un référendum pour consulter la population ? Toujours pas.
C'est non. Oui, monsieur Lejean, je propose... Non,
mais comment allez-vous faire pour
monsieur Lejean, s'il vous plaît.
Parce que ça n'a pas été fait.
Mais enfin, un référendum, c'est... Dans quel cadre juridique on ferait un référendum ?
Ah, il y en a un. Vous pouvez faire un référendum local.
Non. Il n'y a aucune valeur juridique. Si, non, il n'y a aucune valeur juridique.
Toute assemblée délibérante
sur les 27, sur les 27 communes ?
Bah, vous demandez au département.
Bah donc on ne le fera pas, donc c'est ma réponse.
Vous répondez à la place du département, c'est bien.
Voilà. Oui, bon, non, mais j'en ai déjà parlé avec le département.
Ah, vous y aviez
Monsieur
pensé,
Lejean, rapport sur la création de la société publique locale Acta Énergie.
Voilà, donc Acta s'est penché sur une réflexion suite au problème du coût de l'énergie des dernières années, de savoir s'il n'y avait pas un intérêt de créer une... S'il n'y avait pas une... perdu le fil, là. Une opportunité de créer une société effectivement publique à vocation énergie, en plus avec le recul qu'ils avaient sur Alréo, puisque vous savez qu'il y a à Alréo, on a une piscine qui est chauffée au bois, qui nous a permis d'ailleurs qu'elle reste ouverte toute l'année 2023 et 2022, alors qu'on avait une explosion des coûts et beaucoup de piscines en France fermaient. Et donc propose de créer une SPL pour pousser plus loin cette réflexion au niveau des communes. Donc il y a une réflexion sur Quiberon. Ils ont sollicité la commune de Carnac, savoir si on n'avait pas un intérêt. Dans le cadre du bourg, on a quand même beaucoup de bâtiments qui sont publics, qui sont regroupés, écoles, médiathèques, mairies, musées. Un endroit ou l'autre. Hein. Voilà, donc il y a eu cette réflexion-là, et donc il nous paraissait opportun d'adhérer à la SPL. Donc le coût, c'est 500 euros, avec la possibilité de la SPL de pouvoir effectivement venir en engineering, venir en construction et venir en exploitation.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Je pense que... Voilà.
Et de désigner un représentant, soit moi ou Gérard, c'était l'un des deux, puisque pour l'instant, il n'y a pas de prévoir de suppléant. Alors, on a posé la question, je ne sais pas si Delphine a eu une réponse un peu plus claire à cette question-là.
C'est monsieur Lejean ou monsieur Marc-Albin ?
Non, c'est savoir si on pouvait...
On désigne un titulaire, mais on désigne un titulaire, et il est aussi par les statuts que...
Quelqu'un
le d'accord. Remplace. D'accord. Bah, alors... Moi, j'avais proposé d'y aller parce que j'étais avec Acta, mais avec Gérard derrière...
Bah, on va dire Monsieur Lejean titulaire et Monsieur Marc-Albert suppléant, donc vous répartirez...
Oui, tout à fait, sans aucun problème.
J'imagine que tout le monde est d'accord pour...
Je ne vous ai pas fait tout le détail, hein, vous l'avez, hein, c'est écrit, vous avez le temps de le lire.
Est-ce qu'il y a des gens contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Toujours Monsieur Lejean, l'Office du tourisme intercommunal, le rapport annuel.
Alors, vous savez
on
que
la commune... juste
ouais,
alors,
voilà, vous avez les documents, elles sont à votre disposition pour regarder. Donc, je vous rappelle, hein, c'est la SPL de l'Office du tourisme Belquibron, le Grand Souffle, hein, qui représente l'ensemble des communes touristiques d'Acta, sauf la commune de Carnac, puisque nous avons gardé notre compétence, sachant que nous sommes quand même actionnaires de cette SPL-là, mais nous n'avons pas transféré la compétence. Donc on a gardé notre compétence au niveau de notre office du tourisme, qui nous permet aussi de collaborer avec l'office du tourisme intercommunal sur différents sujets. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, ça peut être très long. Hein. Grosso modo, l'office du tourisme de la baie de Quiberon donc a récupéré aussi la valeur de la taxe de séjour, a réorganisé l'ensemble, beaucoup de communes, Ce qu'il y a aujourd'hui, ils ont mis les taxes de séjour au maximum sur tous les niveaux, derrière, qui a permis de récupérer effectivement du fonctionnement. La SPL bénéficie aujourd'hui d'une subvention d'ACTA un peu plus d'un million six, sachant que sur l'année 2023, ACTA devrait récupérer en taxes de séjour s'approcher des 2 millions d'euros. Voilà, je fais simple. Hein. Si vous voulez plus de détails, je reste à votre disposition pour avoir plus de détails derrière. Carnac, Quibon sont ACTA est le principal actionnaire à 70,5%. Derrière, Carnac et Quibon sont tous les deux à la hauteur de 11,5%. Et après, vous avez toutes les communes du territoire d'ACTA.
Voilà, donc on prend simplement connaissance de ce rapport. Il n'y a pas de vote. Tom ?
C'est pourtant marqué, il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport. C'est vrai
le
que c'est
rapport,
différent des années
ouais,
précédentes.
On approuve le rapport, mais de toute façon... Enfin,
il existe déjà. Là, enfin.
C'est eux qui l'ont approuvé. Bon, nous l'avons déjà approuvé.
Je tiens juste à préciser que c'est signalé d'une manière différente par rapport aux années précédentes, ouais, où effectivement nous prenions acte.
Ouais, c'est vrai.
Tout
c'est
à
vrai,
fait.
C'est vrai.
Alors,
on prend acte de... En fait, c'est comme les rapports des autres organismes, voilà, collecte des ordures. En fait, on prend acte de ce rapport.
L'ensemble des autres communes du territoire d'ACTA doivent effectivement approuver le rapport, sauf nous, puisqu'on n'a pas transféré la compétence. C'est juste là qu'il y a une petite coquille. Merci de l'avoir signalé.
On passe au point numéro 7, le budget principal, rapport décision modificative numéro 1.
Tout
vous
à
avez
fait,
tenu jusqu'au mois de novembre, monsieur Lejean, c'est bien.
Oui, je ne sais pas si c'est bien, ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais juste retrouver mes petites fiches, parce que là, du coup, ça m'a un peu mis à l'envers, que je ne dise pas de bêtises. J'ai quand même des questions qui vont être posées. Donc, c'est la décision modificative du budget numéro 1 de la commune. On est bien en M57, je vous rassure. Derrière, donc en dépenses, en recettes de fonctionnement pour 215 000 euros et en dépenses et en recettes d'investissement pour 143 000 euros. Alors, vous avez le détail. Maintenant, grosso modo, on va faire rapide. Hein. Au chapitre 011, on est en dépenses de fonctionnement sur la commune, 15 000 euros. Ce sont des frais qui ont été engagés supplémentaires dans le cadre de l'entretien des véhicules du CTM, puisque je vous rappelle qu'on a notre mécanicien qui est en longue maladie. Donc, il a fallu compenser. Voilà. Sur les 200 000 euros, vous avez au chapitre 014, ces atténuations de charges, ce sont les rattachements de la taxe de séjour. Je vous rappelle, tous les ans, on vote une taxe de séjour avec un montant minimum de 510 000 euros qu'on verse par tranche. Et derrière, il y a bien sûr le rattachement à faire. Il y en aura encore un autre en début d'année quand on aura exactement les montants définitifs. Puisque, pour votre information, la taxe de séjour sur Carnac, c'est à peu près 900 000 euros. En termes de recettes de fonctionnement, donc on a 57 492 qui sont les recettes qu'on récupère de nos assurances, puisque je vous rappelle que nous avons un contrat d'assurance quand les agents de la mairie sont malades et on est remboursé. Si vous préférez, ce qui fait office de sécurité sociale hein, dans la fonction publique. Les 57 508, ce sont la DSC, la dotation solidaire communautaire qui a été mise en place par ACTA. Suivant un calcul par rapport à l'effort fiscal au nombre d'habitants sur la commune, habitants INSEE, et l'effort fiscal et ainsi de suite. Pour la commune de Carnac, c'est 57 508. C'était une décision qui a été votée en conseil communautaire. Je n'étais pas spécialement pour une DSC parce que ça revient en recette de fonctionnement et je pense que pour moi, la communauté de communes n'a pas à intervenir dans des recettes de fonctionnement des communes. Qu'elles interviennent sur des subventions d'investissement, oui. En fonctionnement, non. C'est mon point de vue. Il n'a pas été suivi, mais je vous le donne quand même. Sur les 100 000 euros que vous avez au chapitre 75, puisque je n'ai pas pu répondre lors de la commission, ou du moins il me manquait des détails derrière, c'est surtout sur le terrain du Runel qui a été vendu pour la création du lotissement à Bretagne Sud Habitat et la cession de matériel à la commune de Carnac, qui font les 100 000 euros. Voilà pour les dépenses et les recettes de fonctionnement. En dépenses et en recettes d'investissement, vous avez 143 000. Les 40 000 opérations patrimoniales, ce sont des frais d'études qui sont des opérations d'ordre que vous retrouvez avec les 557 plus et moins 557 plus 52 moins 12 620. Ce sont des opérations d'ordre qui ont été demandées par le trésorier Monsieur Boitourat. Et donc, en recette, l'écart de 143 000 sont, effectivement, on retrouve les 40 000 en opération d'ordre, plus, moins, donc ça fait zéro. Et les 103 000 qui sont l'écart réel, c'est des recettes d'amendes de police, puisque les recettes d'amendes de police viennent systématiquement dans le budget d'investissement et pas dans le budget de fonctionnement. Et systématiquement, tous les ans, on ne les met pas, puisqu'on ne sait pas. Et donc là, on a inclus ce qu'on a reçu.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative ? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Décision modificative numéro 2 pour le musée, cette fois-ci, monsieur Lejean.
Alors, tout à fait. Donc là, on va retrouver des opérations d'ordre toujours à la demande de la trésorerie qui vont se situer dans l'investissement, puisque vous avez vu, au fonctionnement, il n'y a rien. Donc, deux opérations d'ordre qui ramènent effectivement les 620 623,40, c'est-à-dire ce sont les avances de la mairie par rapport à la PCP que vous avez votée. C'est une avance de trésorerie de la mairie pour qu'elle puisse financer la PCP qu'on a votée l'autre jour.
Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Maintenant, un certain nombre de subventions. D'abord, Skedanos 2023, une convention financière avec Paysage de Mégalith.
Oui, monsieur, comme tous les ans, Paysage de Mégalith, nous avons une convention avec Paysage de Mégalith qui participe à Skedanos. Donc c'était tout simplement de la faire passer à la hauteur de 10 000 euros pour, je rappelle, Skedanos qui a lieu sur la deuxième partie du mois d'août, dont c'est le son et lumière qu'il y a dans les menhirs tous les ans. C'est une subvention que nous redonne PDM. Participation, si vous préférez.
On la vote tous les ans. Pas de questions.
La seule remarque, c'est que la mairie verse des subventions à PDM et PDM nous...
Ouais. Effectivement, participe.
On ne peut pas faire, on peut pas faire autrement. C'est deux choses.
Vous avez deux solutions. On m'a souvent reproché d'écrire toutes les lignes budgétaires qu'il y avait. Soit, effectivement, on ne fait pas et je te donne 10 000 euros de moins et comme ça, tu ne me subventionneras plus. Ou soit, on met tout à plat et on est tout transparent complètement.
Ça passe en conseil municipal. Sinon, ça, vous ne le verriez pas.
C'est une manière d'associer un PDM, mais comme c'est nous qui nourrissons
PDM... Il n'y a pas que nous.
Est-ce qu'il y a des votes contre cette monsieur ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Vote contre, monsieur Luneau. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Madame, votez contre, madame Le Golvan ?
Non, abstention.
Abstention, d'accord. Abstention, madame Le Golvan. Et donc, le rapport est adopté. Une subvention exceptionnelle 2023 pour l'association du comité de jumelage Carnac-Lacluza. Madame Lamandé.
Oui, il s'agit d'une subvention qui est demandée par Marie-Thérèse Leloir, qui est la présidente du comité de jumelage. Elle a organisé un voyage à l'occasion du 25e anniversaire du fameux jumelage de la Clusa, du 15 au 19 septembre. Donc Pascal et moi en faisions partie, notamment. Et donc, comme pour l'aider pour cette participation, d'habitude, l'association ne demande jamais de subvention, mais cette fois-ci, on a demandé une subvention exceptionnelle. Donc, on propose de lui accorder une subvention, la subvention de 2500 euros pour l'année 2023.
Il faut se féliciter de voir ce jumelage renaître de ses cendres, parce qu'il a un peu vivoté, et grâce à Marité...
Marité fait un très beau travail. Ouais. Voilà, elle fait
et puis
vraiment...
côté Lacluza aussi, il y a vraiment un renouveau, c'est très bien.
On sent que ça a vraiment envie de repartir.
Pas d'opposition, j'imagine, à cette subvention ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Toujours une subvention
Il y a des membres de l'association donc, qui votent pour la subvention, ici. Je crois les gens sont membres de l'association. Ouais. Non.
Qui est membre ?
D'accord. C'est
au niveau du conseil, oui.
Oui. Ouais. Donc, qui doit s'abstenir ?
Ouais. Mais vous êtes membre ou vous siégez ?
Ah non. On siège, mais moi je suis pas. Enfin.
Ouais. Oui. Bon, on mettra par sécurité, on vous mettra pas à Madame Le Golvan et voilà. Une subvention exceptionnelle cette fois-ci au cercle culturel, toujours Madame Lamandé.
Oui, alors il y a une petite coquille là. On a mis l'exposition du 19 octobre au 3 novembre, mais c'est jusqu'au 5 novembre avant que Tom nous le dise. Et donc le Cercle culturel a organisé un salon qui s'appelle Carnac Livadure avec des artistes locaux et non locaux, mais de très très bonne qualité. Et c'est aussi dans le cadre de leurs 20 ans de... C'est une bonne année, hein. 2005, c'est un bon cru. 2024, je veux dire, c'est un bon cru. On a les 110 ans du foyer laïque, les 25 ans du jumelage, les 20 ans du cercle culturel et les 50 ans du jumelage... 20...
Ouais. Et les 80 ans de Charles aussi.
Et les 80 ans de Charles. Ça, c'est en 3. Les autres, c'est en 24. Donc, on propose une subvention pour le cercle culturel de 500 euros pour l'organisation de ce salon Carnac-Livadur.
Pas d'opposition, j'imagine. Unanimité, je vous remercie. Une subvention exceptionnelle, une autre, décidément, pour le championnat de cross-country des polices municipales. C'est pas Michel Courtel qui participe, quand même.
Non. Non, c'est Jérémy Quentin.
Sinon, on va le perdre.
C'est Jérémy Quentin. C'est... Donc, l'idée est de prendre en charge une partie des frais qu'il a engendrés pour représenter la mairie Carnac au championnat de France de cross-country des polices. Et il a gagné, pour la 5e fois.
Je crois qu'on peut pas lui refuser la subvention, là, non. Tout le monde est d'accord ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Kergosien, l'association de collectivités, des collectivités forestières pardon, du Morbihan, adhésion et désignation des représentants. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Micro.
J'espère qu'il tiendra à cœur, pas qu'à moi. Donc l'objet est donc l'adhésion donc, de la commune de Carnac à l'association des collectivités forestières du Morbihan et, par défaut, à la Fédération nationale des communes forestières. Donc cette association des collectivités forestières donc, œuvre au bénéfice des collectivités donc, membres pour favoriser la forêt et les produits du bois. Et le prix de l'adhésion est de 500 euros donc, pour notre commune, sachant que le prix de l'adhésion dépend du nombre d'habitants de la commune. Donc cette association donc, a pour objet la représentation et la défense des intérêts des collectivités forestières. Elle permet de bénéficier d'un accompagnement donc, personnalisé sur nos projets. Donc, je rappelle que la commune de Carnac fait 3200 hectares, qu'il y a 1200 hectares de surface agricole potentielle, qu'il y a 1200 hectares de surface boisée. Donc ce n'est pas rien, mais c'est très important. Et voilà, les bois, c'est un sujet qui reste en déshérence. Cette adhésion permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et donc de participer. Donc l'association donc a pour objet de participer à l'élaboration, au suivi des politiques forestières, de la valorisation commerciale et industrielle éventuellement des produits de la forêt et du bois. Et donc, c'est une source d'information et de formation des adhérents, de conseils et d'assistance dans les domaines liés au bois et à la forêt. Et également, l'association peut participer à l'élaboration des études nécessaires donc, aux politiques que l'on veut mener au niveau de notre commune. Donc, c'est un sujet important. Donc, l'association des collectivités forestières du Morbihan est née en début au printemps de cette année, sachant que la Fédération nationale des communes forestières est née en 1933. Et donc, il y a une demande forte compte tenu des événements de l'année dernière, donc pour créer des associations départementales au niveau de tout le territoire français. Et dans le cadre du lancement donc de l'aménagement foncier, cette adhésion pourra nous être très utile pour justement élaborer un projet pour nos surfaces boisées. Pour trouver des solutions. Donc, il est proposé au conseil municipal donc d'adhérer à cette association, ainsi qu'à la Fédération nationale des collectivités forestières, de désigner donc moi-même Jean-Paul Kergosien titulaire et Gérard Marc-Albert suppléant pour représenter la collectivité.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Luneau ?
Merci Jean-Paul pour l'exposé. Sur les 1200 hectares de bois. Sais-tu combien il y en a dans le domaine privé, combien il y en a dans le domaine public à peu près ?
C'est à 80% du domaine privé.
Ouais.
C'est à 80% du domaine privé. Sinon, il y a le département qui en a également un peu. Voilà. Quand je dis 80%, c'est vraiment un grand minimum. Hein. Voilà.
D'accord. Merci.
Bon, j'imagine qu'on aura l'unanimité sur ce rapport. Je vous remercie. Monsieur Marc Albert, la réalisation d'une voie verte le long de la RD 119.
Donc il est proposé. On n'avait pas ça.
Ça permettra notamment aux enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants au Runel, de prendre le vélo et de venir en toute sécurité à Carnac-Bourg, et puis éventuellement après, évidemment, puisque c'est connecté par la... Comment ?
Juste une précision, on n'a pas la même carte. Parce que Tillane, c'est à gauche, et Durunel, il faudrait que les gamins remontent un peu et traversent la
carte. Oui, c'est sûr, mais enfin, après, il faut trouver l'emprise, c'est pas évident.
On est en ville... On a déplacé le panneau d'entrée de Carnac. Donc, comme on est en ville, on pourra mettre un passage piéton ou un passage sécurisé. Que si on est hors agglomération, on ne peut pas mettre des passages piétons hors agglomération. En ayant reculé le panneau de Carnac, nous permettra de mettre un cheminement piéton pour traverser la voie éventuellement. Voilà.
Si c'est pour nos petits du Runel, je pense que le bord de route sur leur droite, quand ils sortent du Runel, voilà, c'est peut-être plus simple.
Ils feront comme ils voudront. En fait, il y a pas mal de campings qui arrivent au rond-point du Lignol, donc ils pourront profiter de la...
Enfin, là où vous avez raison, c'est qu'il faudra sécuriser absolument un passage à cet endroit-là pour que les gens puissent traverser des deux côtés. On a des campings des deux côtés et on a aussi au Runel, voilà, beaucoup de gens. Mais je pense que ce sera prévu dans le cadre du permis d'aménager.
Merci. Il serait possible d'afficher la carte pour le public ici présent, peut-être ? Merci. Alors, ça nous était le projet de cette piste cyclable a été présenté en commission urbanisme. Oui, mais c'est fait pour les vélos.
Non.
Ah bah non, nous l'a présenté comme une piste cyclable.
Les piétons sont prioritaires sur une voie verte.
Donc Monsieur Luneau, une voie verte, c'est les deux.
Et qui est prioritaire, les piétons ? Donc c'est pas une piste cyclable ?
Non. Une voie verte, c'est pour piétons-vélo, Monsieur Luneau.
Oui, j'ai compris. Mais est-ce qu'il y en a qui sont prioritaires sur d'autres ?
Les piétons.
Oui, mais je voudrais la réponse. Mais non, mais je pose la question à l'expert.
Si piétons-vélo, il n'y a pas plus un prioritaire que l'autre.
D'accord.
Sinon, c'est pas une voie verte.
D'accord, bon. Bah. C'est dommage, parce que si ça peut permettre de faire circuler les vélos, tant mieux. Il y a un grand schéma directeur cyclable avec 100 000 euros d'études. On a fait venir des habitants pour s'exprimer. Ce qui a été réclamé à Corse et à Cry, c'était des pistes cyclables qui permettent de rallier les hameaux du nord de la commune au bourg. Et là, on a fait une petite promenade bucolique. Et je trouve vraiment dommage que cette piste cyclable soit pas... Enfin, cette voie verte qui fait aussi office de piste cyclable. Sauf erreur de ma part, y a-t-il un problème de piste cyclable qui aille tout droit ?
Connaître Carnac, en passant par là, on peut aller jusqu'au tumulus. Hein. Mais vous ne devez pas connaître, peut-être.
C'est pas grave, question. Hein. Détournez pas ma question, en fait. C'est assez sérieux. Les gens ont vraiment... Il y a plein d'habitants qui demandent vraiment des pistes cyclables. Et là, on fait des pistes cyclables qui sont des petites promenades dans les menhirs. C'est vraiment dommage de mettre autant d'argent et autant d'études.
Le plan d'aménagement cyclable sera présenté le mois prochain, monsieur.
Prévoyez-vous de faire cette fameuse piste cyclable dans
Monsieur Luneau, vous verrez bien le mois prochain, monsieur Luneau.
Monsieur Luneau, je suis en train de vous dire...
Au plan du suspense.
Monsieur Guimard,
vous voulez pas répondre ?
Mais vous verrez bien le mois prochain, il y a un projet global avec l'ensemble des pistes et
oui, mais là,
des...
Oui, vous dépensez
et
de l'argent pour...
pour faire une piste, pour faire une voie verte. Pour faire une voie verte, voilà. Monsieur Guimard.
Pardon, vas-y, finis.
Parce qu'en commission, on avait des arguments très solides pour ne pas faire la piste cyclable.
Vous aviez des arguments très solides ?
Ah non,
Ah oui, j'ai eu peur.
Bon, non,
monsieur Guimard. Monsieur Guimard,
vous n'avez pas de réponse sur...
Monsieur Guimard, non, je vous ai répondu, je ne vais pas répondre trois fois la même chose.
Mais non, mais si vous le savez, vous pouvez nous le dire.
Monsieur Guimard.
Nous faire rêver.
Vous verrez la semaine prochaine. Je vais pas
faites-moi
mettre...
rêver.
Je vais pas mettre des paillettes allez dans votre vie, monsieur Luneau. Oh. Monsieur Guimard.
Oui, juste également une remarque, et c'est peut-être dans le sens que, ou de ce que tu voulais dire en tout cas, c'est que depuis des années, on réclame, ou la population réclame, que du Runel, effectivement, les enfants et autres puissent accéder au bourg facilement et de façon sécurisée. Or là, on fait le nord de toute cette zone-là sans prendre en compte le Runel. Donc c'est un peu dommage qu'on privilégie probablement un peu de tourisme pour l'UNESCO pour la suite. Et c'est une évidence, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Effectivement, il y a aussi les campings, etc. Mais c'est très bien. Il aurait été préférable de commencer par la voie du Runel et après cette voie-là, à mon avis, tout simplement.
On fait ce qu'on peut, monsieur Guimard. Alors, est-ce qu'il y a, après ces commentaires, est-ce qu'il y a des votes contre, carrément contre, la création d'une voie verte? D'accord.
Faites les parfait.
Est-ce qu'il y a des abstentions? Le reste est pour. Voilà, cette résolution est adoptée. On passe à la résolution suivante. Monsieur Durand, l'acquisition de deux parcelles, BH43 et BM24.
Oui, alors c'est deux parcelles vendues par monsieur et madame Pachèvre. En fait, c'est des parcelles qui sont situées, vous avez vu le plan, j'espère qu'on va le montrer. Voilà, ces parcelles étaient demandées pour monsieur et madame Pachèvre. Ils voulaient en fait construire depuis longtemps. Ça fait des années qu'ils demandent de la constructibilité sur ces parcelles. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Hein. Comme vous savez, c'est du zonage NM1 et NM2, donc site de protection exclusive au niveau des mégalithes. Voilà, donc ils ont proposé de l'acheter. On l'achète donc à 6 euros le mètre carré. Il y a 5000, je ne sais plus combien, je l'ai marqué ici, 5373 en tout. Oui, entre la petite parcelle au nord,
plus 203,
qui est toute petite, ouais, sur laquelle il y a des panneaux de signalisation d'ailleurs, et la grande parcelle donc, qui est plus basse derrière la maison de mégalith. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions? Si, monsieur Luneau?
Avez-vous des projets avec ces parcelles nombreuses que vous achetez vrai, ça et là?
C'est de la zone tampon. D'accord. Pour protéger le site.
Parce que donc on sait que les zones tampons deviendront inconstructibles à terme avec le classement UNESCO.
Elles le sont déjà, monsieur Luneau.
Ouais, mais ça va s'étendre avec le...
Non, enfin non. En fait, toutes les zones qui sont protégées aujourd'hui l'ont déjà été lors du passage du POS au PLU, donc il n'y a pas forcément d'extension. Là, c'est simplement éviter que ces terrains partent en déshérence. C'est une manière de protéger les abords du site. La commune achète dès qu'elle peut, en fait, aux alentours des grands sites mégalithiques.
D'accord.
On est d'ailleurs déjà propriétaire d'un terrain juste à côté. Et les autres terrains au nord, il me semble que c'est... Ouais, celui-là, oui. Et les autres terrains, c'est le CMN qui sont propriétaires.
Et c'est absolument pas pour faire des parkings supplémentaires.
Bah écoutez, il n'y a rien de décidé pour l'instant.
Rien de décidé.
Rien de décidé. D'accord. Ça reste une réserve foncière.
D'accord. Pas de parking supplémentaire.
Non.
Oh, c'est bien. C'est bien. C'est pour préserver.
Alors, est-ce qu'on peut passer... On vous a répondu, monsieur Luneau, c'est bon. Enfin, on ne va pas épiloguer. Est-ce qu'on vous donne une réponse, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, elle vous plaît ou vous plaît pas, mais on ne va pas répondre trois fois. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre cette acquisition par la commune? Monsieur Luneau, est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est donc adopté. Monsieur Durand, dénomination de voie, impasse Artimène.
Alors, impasse Artimène, c'est à Beaumère. Il y a le plan également, voilà, il figure. L'impasse Artimène, c'est l'impasse celle qui... L'honneur étant l'impasse de Kerfraval, pardon.
Il y a des bretonnants dans l'assistance, ça veut dire quoi, Artimène?
Artimène, c'est pierre, maison, donc maison en pierre. Impasse de la maison de pierre, je pense. Il y a une maison de pierre dans le coin. Je crois que c'est ça. Hein, c'est ça? Voilà.
Merci. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Une autre dénomination de voie, monsieur Durand, chemin et impasse de Kerlescan cette fois-ci.
Oui, toujours le même système. Là, on est à Kerlescan. Effectivement, j'ai confondu tout à l'heure. Kerlescan, donc vous avez le plan également. Il y a deux voies. C'est au sud de la route de Kerlescan. Il y a le chemin de Kerlescan qui est beaucoup plus long, qui dessert pas mal de propriétés et des champs également. Et puis l'autre petite impasse qui est beaucoup plus petite, impasse de Kerlescan, celle qui est en mauve.
Bon. Unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Monsieur Marc Albert, convention Morbihan Énergie, d'effacement des réseaux, avenue d'Arvan. C'est Marc Albert, je vous réveille.
Je ne pourrais pas lui.
Donc c'est l'effacement des réseaux avenue d'Arvor, excusez-moi, j'étais à côté, merci. Et donc c'est pour un montant de... On avait déjà fait l'avenue de... Hein? Du Guéclin, voilà, et on n'a pas pu enlever les poteaux chez l'avenue du Guéclin parce qu'ils sont reliés avec ceux de... d'Arvor, et si on avait, enlevé, c'était compliqué. Donc, du Guéclin est déjà fait pour les enfouissements. On enlèvera les poteaux quand on aura fini Arvor. Donc, il y en a pour 902 296, et pour la commune, il y en a pour 558 622. Et le reste est pris par le Morbihan Énergie pour 315 663. Voilà. C'est la continuité après les travaux de l'assainissement de Morbihan Énergie, de d'Acta, pardon. Pas mal ce soir.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, une convention de servitude cette fois-ci.
Servitude de passage, vous savez la pointe qu'on a achetée où se garent au tumulus où se garent les commerçants du marché. Donc il va y avoir un enfouissement de réseau là, qui va être fait. Et du coup, il y aura un câble électrique qui passera justement juste dessous cette parcelle-là. Voilà.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Toujours M. Marc Albert, une estimation sommaire des effacements de réseau au giratoire avenue de la Pointe.
Avenue de la Pointe, vous savez, quand on arrive au bout de la Grande Plage et qu'on va à avenue d'Orient, il y a un endroit là au carrefour où c'est un peu compliqué de passer. Et donc, on est en train de. Il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, en principe, on commence par les réseaux secs. Donc, on est en train de. On a fait faire une évaluation qui coûtera 79 130. Et la participation de la commune sera de 28 680 pour effacer les réseaux dans ce secteur-là avant de. On a déjà un petit dessin du département, puisque c'est une route départementale, pour pouvoir ensuite, après, revoir la voirie. On a un problème d'eau pluviale aussi dans ce coin-là. Donc on va commencer par l'enfouissement des réseaux, puis on continuera pour arriver à relier toutes ces pistes cyclables qui arrivent jusqu'à la piste cyclable de la Trinité. Voilà.
Alors là aussi, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Toujours M. Marc Albert, décidément. Contrat d'occupation de 3 emplacements pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Parking voilà. Hilertissen.
Donc à Hilertissen, on va installer 3 emplacements, enfin 3 bornes de branchement électrique pour les voitures électriques, donc qui fait 6 emplacements. Hein. C'est 3 bornes qui font 6 emplacements et ce sera des recharges de 7 kW. C'est des recharges lentes. Oui, c'est les lentes, oui. Donc il y en aura 6 là, c'est à l'endroit, à l'entrée de Carnac, quand les gens arrivent, comme ça ils pourront se garer là, recharger leur voiture, et puis aller faire un tour dans le bourg, et puis reprendre leur voiture après.
On installe des lentes pour qu'ils restent le plus longtemps possible chez les commerçants carnacois, ou il y a une raison particulière?
De quoi?
Pourquoi on installe des recharges lentes? C'est pour qu'ils restent chez les commerçants?
Parce que les endroits où on met des lentes, les endroits où on met des rapides, on estime que les rapides... On en met au Luciol des rapides.
D'accord.
Et tout ce qu'on a à Carnac, pour l'instant, c'est que des lentes.
D'accord.
Il y aura les premières rapides seront au Luciol.
Et puis on est devant l'hôtel des aliments, donc ça permet voilà, en même temps, voilà, pour la nuit.
Puis il y a l'ancienne gendarmerie, il y a tout le monde au coin là, donc c'est l'entrée de Carnac. Quoi.
Parfait. J'imagine qu'il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Morbihan Énergie, toujours un contrat d'occupation de 4 emplacements. Cette fois-ci, au parking des Lucioles, c'est là, c'est des rapides, c'est ça?
Voilà, non, attendez. Alors, il y a 4 emplacements, donc ça fait 8 voitures à recharger. On en a 3 fois 2 lentes à 7 kg, puis après, on en a 1 fois 2 où il y a un côté 22 kg et un côté 50 kg. Donc, il y en a 4 lentes, il y en a 6 lentes, une moyennement rapide, une très rapide. Voilà. C'est comme ça. Comme c'est avec Morbihan Énergie, après ils organisent en rapport des besoins qu'on a. Et puis voilà.
Toi, tu
oui.
Monsieur Lejean veut poser une question.
Ouais, Gérard, avec Morbihan Énergie, il n'y avait pas possibilité d'avoir plus de rapides. Parce que là, on va être un peu équipé en lente, oui. Mais on sait qu'on a de plus en plus de demandes de rapides. Et puis c'est en train d'évoluer tellement rapidement que les gens ils veulent recharger.
Ouais.
Alors je sais qu'il y a le Super U qu'on a derrière, y en aura. Au niveau de sa pompe à essence aussi, je crois qu'il a prévu d'en faire, des rapides. Mais on...
Parce que les rapides, c'est quand même 2-3 heures. Donc,
Oui, non, mais par rapport à 12 heures, sachant que les batteries, comme elles augmentent de puissance,
On sait très bien que, voilà, plus ça va évoluer dans le temps, même les rapides, ça va être un peu plus...
Avant, on mettait que des lentes, maintenant, on commence à mettre des lentes et des rapides, et puis on met les deux, parce que les gens qui vont passer la soirée...
Je pensais que tu aurais eu moitié lente et moitié au moins rapide moyenne, quoi. Et ils ne peuvent pas changer Morbihan, parce que c'est Morbihan Énergie qui propose ça.
C'est déjà en cours d'installation.
Ah, d'accord.
Il y a déjà deux ans et demi qu'on était sur le dossier, à savoir on les mettait en refaisant le réseau électrique des Lucioles, donc voilà... C'est tout un système, voilà. C'est pas le même comptage, c'est pas le même truc. Voilà.
Pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Toujours monsieur Marc Albert, un contrat de partenariat avec Morbihan Énergie, encore sur le pilotage de l'éclairage public.
Ouais, alors, quand on veut changer les horaires de l'éclairage public, les horaires de l'éclairage public, ça prend une bonne quinzaine de jours, il y a 120 postes à changer. Donc maintenant, il y a un nouveau système qui existe où si on remet un boîtier dans un des 120 postes, on en a deux en test qui vont être installés, et on passe avec un téléphone portable, on programme et on se connecte, et ça, dans la journée, on fait tout le monde. Donc là, on en a deux en essai. Morbihan Énergie nous en a... Enfin, on est arrivé à en avoir, j'en voulais 100, mais bon. On est arrivé à en avoir 50 parce qu'on se dit qu'il y a des endroits où on peut ne pas changer souvent, et des endroits où on peut changer souvent pour avoir un problème dans une voirie et la lumière est éteinte. Avec le téléphone, on pourra rallumer le quartier si on a besoin, si y a un accident, si y a un incendie, si y a un problème. Et du coup, ça nous permettra de réagir plus rapidement parce que là, il faut ouvrir l'horloge, tout régler, alors que là, maintenant, on passera, plap, 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 on les fera un peu l'autre. Et dans le temps, on arrivera à les faire de l'ordinateur restant... non, mais voilà. Donc, on est là-dessus.
OK. Vive le progrès. J'imagine qu'il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Merci. Madame Gasser, la création d'un poste de conducteur d'opération.
Oui. Au vu des projets qui sont sur le gaz, je vais dire, on a besoin effectivement de renforcer le personnel pour piloter les opérations de construction et réhabilitation des bâtiments. Réaliser les pré-programmes intégrant les enjeux de développement durable et les contraintes techniques et juridiques, organisationnelles du projet, et assurer la rédaction du programme fonctionnel et technique pour les deux obligations, au regard des besoins des collectivités. Bon, je ne vous lis pas la suite, j'ai du mal à parler. Donc, il est prévu de faire une embauche pour ce poste-là. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la création de ce contrat de projet, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué signer les documents pour ce projet.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions. Monsieur Luneau?
Manifestement, c'est un poste qui est créé pour le développement du projet du musée. Est-ce
que c'était non, pas je vous ai déjà pas répondu. Pas
que... Oui. Mais je pose la question... à l'expert musée.
Merci.
Pourquoi vous posez une question dont vous avez déjà eu la réponse, monsieur Luneau?
Mais parce que c'était en commission et que normalement il y a des rapports des commissions.
Mais vous pourriez vous parler avant le conseil.
Ben non. Qu'est-ce que vous croyez? Donc ce poste est dédié à quoi?
Madame Gasser,
à quel projet? Parce qu'il y a, dans les grands projets carnacois, donc il y a les pistes cyclables, le skatepark, du logement pour les jeunes actifs. Et autrement, je vois pas, il n'y a pas d'autres projets, je crois. Il n'y a pas okay. de... Bon. Ah bon? Ah pardon, j'ai cru. Pardon. Parce que dans le programme de 2020, il n'y avait pas de construction.
Puisque vous le prenez comme ça, vous avez eu la réponse de Madame Gasser.
Et vous ne voulez pas répondre aux carnacois, aux carnacoises qui lisent le compte rendu? Donc on ne sait pas à quoi sert le poste.
Alors, est-ce qu'il y a des votes contre?
Pardonnez-moi,
vous
ne voulez pas répondre en conseil municipal? Vous créez un poste?
Non, je ne réponds pas à des questions posées comme ça, monsieur Luneau, dont vous avez déjà eu la réponse. Donc ça n'est pas la réponse. Vous savez très bien que ça n'était pas qu'un poste pour le musée. C'est un poste pour la rénovation de l'ensemble des bâtiments, pour les pistes cyclables, pour tous les projets, notamment celui du musée s'en est un. Mais il y a également le projet au Ménec. Il y a énormément de bâtiments qui vont être rénovés, qui doivent être mieux isolés, et donc on a besoin d'être compétences. Donc ce n'est pas que pour le musée. Parfait. Est-ce qu'il y a des votes contre sa création de poste? Monsieur Luneau, est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le rapport est adopté. Madame Gasser, toujours, sur le tableau des emplois au 15 novembre 2023?
Alors, sur le tableau des emplois, il y a quelques modifications, entre autres la création d'un poste... d'électricien au centre technique municipal pour répondre aux besoins actuel, sachant que la personne qui est là est en arrêt pour un long moment. Et de toute façon, ça n'était pas suffisant. Donc il est indispensable d'avoir une autre personne pour pouvoir travailler en interne. Et la modification d'autres intitulés de poste, ce sont juste des régularisations. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier à compter du 15 novembre le tableau des emplois.
Madame Le Golvan ?
Oui, juste une question à Madame Gasser, du coup, là, parce que quand quelqu'un est en longue maladie, comme vous venez de le dire, il peut être remplacé. Là, on crée un deuxième poste. Donc quand il va revenir, vous avez besoin de deux électriciens.
Absolument, oui, oui.
D'accord. Donc vous anticipez sur...
Absolument, oui, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Madame Gasser, médecine professionnelle et préventive.
Alors, c'est simplement un renouvellement de la convention conclue avec le centre de gestion 56. Donc, vous avez effectivement le contrat. C'est simplement quelque chose qui est existant et qu'on renouvelle cette année.
Il faudrait que tu le prêtes pour toi aussi.
Comment ?
Il faudrait que tu le prêtes pour toi.
Oui, ça va. C'est perso.
Alors, Marie-Pierre, pourquoi tu touches ?
Parfait.
Donc, on vous demande d'approuver le projet de convention.
Pas de vote contre, j'imagine. Pas d'abstention. Mmh. Unanimité, je vous remercie. Et enfin, le dernier rapport, le versement de l'indemnité d'administration et de technicité.
Là, c'est
une mise à jour.
Voilà, c'est une régularisation. Il existait un versement d'indemnité. Pour un certain nombre de grades de l'APM, la trésorerie nous a demandé de régulariser parce que d'autres grades ont pu être éligibles à cette prime. Donc nous avons régularisé la situation.
Juste un détail, Madame Gasser, oui. Vous avez élargi en fait le fait de pouvoir donner cette prime. Par contre, c'est vrai que à un moment, on nous explique comment va être calculée cette prime, sauf qu'on nous dit le montant moyen annuel de référence applicable à chaque grade par un coefficient de 8, puis par l'effectif des membres de chaque grade dans la collectivité. C'est bien, mais c'est vrai que si on avait eu un référentiel des montants, parce que ça, c'est quand on lit, on rigole tout seul, parce que tu ne peux pas calculer. Donc, vous voyez, Delphine, Mme Michard, c'est vrai que je trouve dommage. On écrit, mais on ne met pas. On n'a même pas un exemple, par exemple. Surtout que c'est versé tous les mois, quand même.
Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Il y avait une question orale de M. Luneau qui désirait savoir pourquoi l'association Paysages de Mégalithes n'avait pas porté plainte contre la destruction du possible site mégalithique à Montauban. C'était bien ça ?
C'est presque ça. Bravo.
Alors, le possible site, pardonnez-moi, le chemin de Montauban est dans la liste présentée à l'UNESCO de la brochure Paysages de Mégalithes. C'est pas un possible site.
Monsieur Luneau, on n'est pas au théâtre, on n'est pas non plus sur un plateau de cinéma.
Non,
posez votre question et j'y répondrai.
Vous venez de la poser.
Ok, allez-y. Donc, je vous réponds. L'association Paysages de Mégalithes a décidé de ne pas porter plainte parce que son bureau s'est prononcé sur le fait de ne pas porter plainte.
Mais si la vocation de l'association subventionnée à hauteur de 5 millions d'euros en 10 ans est de préserver le patrimoine, pourquoi ne porte-t-elle pas plainte quand on détruit un de ces sites ?
J'ai répondu à la question.
Le site étant bien du chemin de Montauban,
j'ai répondu à la question.
Étant bien dans votre dossier présenté à l'UNESCO.
J'ai répondu à la question.
Mais les archéologues qui y auraient, semble-t-il,
j'ai répondu à la question.
Non, vous n'avez pas répondu à la question.
Si. J'ai répondu à la question. Ce sera ma réponse.
Et vous êtes fier de cette réponse ? Vous la trouvez responsable ? Vous êtes président de l'association ?
Mais, monsieur Luneau...
Vous êtes maire, déjà, il y a un conflit d'intérêts.
Comment dire ?
Très délicat comme conflit d'intérêts, vous pourriez...
Pardon ?
Vous êtes président d'une association dont la mission est de préserver le patrimoine.
Non.
Non, vous n'êtes pas président de l'association ?
Non, la mission de l'association, c'est de porter le dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Pardon, j'avais cru lire que c'était pour préserver le patrimoine. Autant pour moi. Je vous remercie.
Le conseil municipal est désormais clos. Monsieur Charles Bietri, qui vient de fêter ses 80 ans, souhaite offrir un petit verre de champagne à ceux qui souhaitent rester avec nous. Et il m'a demandé de lire un petit texte qu'il ne peut pas lire, évidemment. Et vous comprendrez bien pourquoi. Et donc, je vais vous donner lecture de ce texte que Charles m'a donné tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. J'aurais aimé vous dire quelques mots de vive voix, mais Charcot, pas l'explorateur, la sorcière, en a décidé autrement. J'ai donc demandé à un ténor bien connu de notre ville, Olivier, d'être mon porte-parole. La semaine dernière, dans cette même salle, Loïc Perron me remettait les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Il ne pouvait être question que les membres du Conseil ne soient pas associés à ce qui a été une très jolie fête. D'autant plus qu'elle est aussi placée sous le signe de la Saint-Charles et de mes 80 ans. Je voulais surtout vous dire qu'au milieu d'une vie trépidante et pleine de joie, j'ai été très fier d'être membre du Conseil. Dans le sillage de notre maire, quelquefois même en s'opposant à lui, oh, pas souvent Charles, vous avez fait de Carnac ce qui restera pour moi la plus belle ville du monde. Il paraît que moi, qui suis votre doyen, je vais bientôt la quitter, mais j'aurai passé des années merveilleuses. Et surtout rencontré des femmes et des hommes d'une immense qualité humaine. Il suffisait de voir comment les équipes de la mairie et spécialement des espaces verts avaient décoré cette salle samedi pour en être persuadé. Aujourd'hui, elle est redevenue un lieu de travail et de débat, mais c'est ici que, si vous le voulez bien, nous allons boire ensemble ce qu'il est coutume d'appeler le verre de l'amitié, hier et mat, Charles. Merci Charles. Et je confirme, samedi dernier, c'était une cérémonie très très émouvante. Bravo, et elle te ressemblait. Il y avait beaucoup d'amis et de collaborateurs qui avaient travaillé avec toi. Et j'ai pu discuter avec eux. Et je sais que tu étais dur, exigeant, mais de voir tous les gens avec qui tu as travaillé être là pour cette décoration, c'est, je pense que ça a dû. Je pense que ça t'a ému, mais moi aussi, ça m'a ému parce que je sais que c'était sincère et qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions ce jour-là. Donc merci à toi pour toute ton action aussi au Conseil. Et puis je vous propose de boire ce petit verre et je vous remercie.